Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 1er décembre 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les législateurs iraniens ont massivement approuvé aujourd'hui, mardi, les grandes lignes d'un plan de double urgence d'action stratégique qui vise à contrer les sanctions US. Téhéran a rendu un dernier hommage au martyr Fakhrizadeh. La manifestation anti-US à Asaka en Syrie. Les Américains doivent mettre fin à leur pratique du partage nucléaire selon Moscou. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Aujourd'hui, mardi, lors d'une session pré-parlementaire, 251 des 266 parlementaires présents ont voté vie aux grandes lignes du projet de loi qui, s'il est adopté, enjoindra au gouvernement iranien à suspendre davantage d'engagements dans le cadre d'un accord multilatéral sur le nucléaire de 2015. Le plan, entre autres, donne l'obligation à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de produire au moins 120 kg d'uranium enrichi à 20% par an et à le stocker à l'intérieur du pays dans les deux mois de suivant l'adoption de loi. Téhéran a rendu un des derniers hommages au martyr Fakhrizadeh dont les funérailles ont eu lieu de lundi. Lors de cette cérémonie, le ministre iranien de la Défense a souligné aucun crime, aucun assassinat et aucun acte stupide ne restera pas sans réponse de la part du peuple iranien. Nous poursuivrons certainement les crimes jusqu'au bout et les criminels doivent savoir qu'ils seront punis pour leurs actes, a promis le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami. À partir d'aujourd'hui, le martyr Fakhrizadeh est une figure mondiale et tous ceux qui ont mis le pied sur le chemin de la lutte ont désormais un grand modèle à suivre, dénommé Mohsen Fakhrizadeh, a-t-il souligné encore. Immédiatement après l'assassinat du défunt martyr Fakhrizadeh, les agents du service de renseignement iranien ont fait tous les efforts et ont obtenu de nombreux indices dans le cadre de l'enquête et suivent toujours l'affaire sous tous ses aspects, a déclaré le ministre iranien des renseignements en marge de cette cérémonie des funérailles du martyr Fakhrizadeh. Mahmoud Alavi s'exprimant sur les dernières évolutions concernant l'assassinat de ce scientifique iranien, a souligné immédiatement après l'assassinat du défunt martyr Fakhrizadeh, nos collègues ont fait de leur mieux et ont commencé leur travail. Ils ont acquis de nombreux indices et poursuivent toujours l'affaire dans toutes ses dimensions. Et le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, a affirmé que l'éminent scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh a été victime d'une opération complexe impliquant des moyens de complètement nouveaux de 100 exécuteurs sur le lieu de l'attentat. L'amiral Shamkhani a tenu ses révélations lors du dernier hommage rendu aux martyrs avec un protocole digne des plus grands martyrs de la République islamique d'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque meurtrière contre des agriculteurs nigérians dans un champ du nord-est du Nigeria. Saïd Khatibzadeh a fermement condamné la récente attaque barbare contre des agriculteurs nigérians dans l'état du nord-est de Borno, a rapporté l'IRNA, citant le service de la presse et du ministère iranien des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé à cette occasion ses condoléances aux survivants, au peuple et au gouvernement de la République fédérale et du Nigeria. Au moins 110 personnes ont été tuées dans une attaque de Boko Haram contre des ouvriers agricoles dans le nord-est du Nigeria. Et les habitants de la province de Asakar, dans le nord-est syrien, ont manifesté en guise de protestation contre les actions des miliciens FDS soutenus par les États-Unis. Et ils ont manifesté pour réclamer l'expulsion de ces miliciens de la Syrie. Dans le cadre du soulèvement tribal populaire dans l'est de la Syrie, les tribus de la province de Asakar ont procéder à des manifestations de protestation contre la détérioration des conditions de vie causées par le blocus imposé par les États-Unis, également la présence illégale de leurs troupes militaires sur le territoire syrien et les actions des miliciens de FDS. Et toujours, les habitants de la ville de Shadadi, située dans le sud de Asaka, ont manifesté pour condamner l'arrestation des jeunes Syriens par les FTS soutenus par les États-Unis. La Russie met en garde les États-Unis contre le déploiement d'armes atomiques sur le sol des pays alliés des Américains qui ne sont pas à eux seuls des puissances nucléaires. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a vivement critiqué la politique de Washington dans le domaine des armes nucléaires, regrettant que la mentalité des Américains en la matière soit revenue au point où elle se trouvait il y a 50 ans. Il semble que la mentalité dans le domaine des armes nucléaires aux États-Unis soit revenue au cliché d'il y a un demi-siècle lorsque l'emploi de l'arme nucléaire était une option politique et pratique, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov tout en appelant les États-Unis à renoncer à cette approche. Un nouveau round de dialogue interlibyen débute à Tanger, au Maroc. La délégation du Haut Conseil d'État libyen et celle de la Chambre des représentants libyennes ont débuté, c'était lundi à Tanger, au nord du Maroc, un nouveau round du dialogue. S'inscrivant dans le sillage des réunions du dialogue interlibyen, cette séance vise à se concerter sur le dialogue en cours en Tunisie et à unifier les visions quant au processus politique et institutionnel en Libye. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'assassinat du savant nucléaire iranien, l'Iran appelle l'ONU à intervenir. Ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharibabadi, a envoyé une lettre à la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et directrice générale de l'Office des Nations Unies à Vienne, Qatafa Diwali, condamnant dans les termes les plus vifs l'assassinat de l'éminent scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh et a appelé cette autorité à dénoncer cet acte de terroriste inhumain. Kazem Gharibabadi a déclaré dans cette lettre « Les pays qui s'opposent aux défenseurs des droits de l'homme et les organisations internationales sont confrontés aujourd'hui à un test historique grave et doivent répondre devant la nation iranienne ». Le martyr Fakhrizadeh était un physicien et professeur d'université distingué qui a mis en œuvre plusieurs initiatives scientifiques, notamment dans les domaines de la défense passive pour la protection de la population en cas des attaques chimiques, biologiques et nucléaires. L'un des derniers services du défunt martyr Fakhrizadeh a été son rôle de premier plan dans la production du premier kit de test du COVID-19 d'indigènes qui a joué un rôle majeur en faveur de nos efforts nationaux pour enrayer l'épidémie à un moment où l'Iran fait l'objet de sévères sanctions inhumaines américaines qui nous empêchent d'accéder aux articles humanitaires, y compris les médicaments et l'équipement médical. Le défunt martyr supervisait également le développement du vaccin anti-COVID a écrit dans sa lettre le représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne. Toujours dans cette lettre, nous lisons « Il y a des indications claires qui prouvent que le régime israélien est impliqué dans cet attentat terroriste, d'autant plus que les responsables israéliens avaient stipulé à plusieurs reprises le nom du docteur Fakhrizadeh et avait planifié son assassinat. Cet assassinat est un autre exemple de terrorisme d'État organisé et financé par un régime terroriste le plus odieux dans le but de mettre en danger la paix et la sécurité internationale, de menacer de l'intégrité territoriale et la stabilité régionale, de détruire les droits de l'homme et d'entraver le développement socio-économique des nations indépendantes, a souligné encore le représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne avant de conclure un acte terroriste si impitoyable comme tout autre acte au service du terrorisme international constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et va à l'encontre des principes fondamentaux du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies ainsi que des droits de l'homme fondamentaux, a conclu ce responsable iranien.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir en fait sur ce qui se passe actuellement entre la résistance yéménite et le régime et saoudien. La résistance yéménite qui a en fait frappé, c'était lundi, une autre fois, les installations pétrolières saoudiennes d'Aramco à Jeddah, en fait, une frappe qui était d'une importance primordiale. Et cette attaque contre des installations pétrolières saoudiennes Aramco est intervenue à un moment où le porte-parole des forces armées yéménites avait en fait lancé une sévère mise en garde au régime de saoudien, en fait, de l'appelant à cesser ses agressions contre le peuple yéménite, ses agressions contre les installations vitales du Yémen, en fait. Mais ces appels lancés du côté de la résistance yéménite sont en fait restés, si vous voulez, indifférents du côté du régime agresseur. C'est pourquoi cette attaque, cette nouvelle attaque plutôt contre l'installation pétrolière d'Aramco. Et dans ce contexte, les Israéliens également sont inquiets. On va y revenir dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Mais j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités spécialistes des questions internationales. J'ai avec moi pour cette émission depuis Paris, M. Habib Tawa, analyste politique et spécialiste des questions internationales. M. Tawa, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, notre contact avec Paris n'a pas été encore établi. Mes amis à la régie sont en train de rétablir ce contact. En attendant, on va en fait partir tout de suite, en fait, pour Paris, pour rejoindre l'analyste franco-syrienne, Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de l'invitation. Bonjour à l'ensemble de l'équipe Press TV et à tous les auditeurs et les téléspectateurs.
Merci infiniment, madame, d'avoir accepté notre invitation. Comme première question, madame Midani, je viens de lancer le sujet. Il y a eu en fait cette nouvelle frappe du côté de la résistance yéménite contre le régime agresseur en profondeur, une autre fois, si vous voulez, du territoire saoudien et plus précisément contre l'importante installation pétrolière d'Aramco. Quelle analyse portez-vous sur cette frappe du côté du Yémen contre l'Arabie saoudite, s'il vous plaît?
Alors, c'est une attaque qui a beaucoup de profondeur, aussi bien sur le plan de l'action militaire que sur le plan de l'action symbolique et politique. D'abord, le missile par lequel cette attaque a été faite contre cette base qui s'appelle Nyom, en fait, des installations pétrolières d'Aramco à Jeddah. Il s'appelle Al-Quds 2, donc c'est Jérusalem. Et puis c'est très symbolique, juste au moment où le prince Mohammed bin Salman recevait Netanyahou et Pompeo et le responsable du Mossad, Yossi Cohen. Donc, c'est aussi un autre sens, une autre dimension très importante de protestation, à la fois contre ces alliances qui s'opèrent en ce moment avec Israël contre le peuple palestinien, un soutien indéfectible au peuple palestinien et surtout un soutien au fait que Jérusalem est restera arabe. En fait, en même temps, le responsable yéménite déclare que ce missile était prévu pour aller frapper Eilat et aller frapper le cœur d'Israël. Et malheureusement, les événements d'aujourd'hui font qu'il tombe et ils l'ont envoyé sur l'État ou sur le régime saoudien qui non seulement agresse le Yémen depuis 2015, en faisant des bombardements systématiques contre l'ensemble des structures et contre le peuple déjà, contre les civils, contre l'ensemble des structures humaines et humanitaires, je peux dire, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les salles de noces, les salles des condoléances, l'ensemble, donc c'est visant la population civile systématiquement visant aussi à faire un maximum de nombre de morts. Aussi, en plus de l'embargo, en fait, ou de l'encerclement systématique aussi des ports et des aéroports yéménites, au jour d'aujourd'hui, donc après 5 ans et demi de cette agression horrible qui est menée par les Saoudiens, les Émiratis et ce qu'on appelle l'association ou les alliés des Saoudiens. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces pays qui agressent le Yémen sont des alliés d'Israël et en fait, ils menaient cette agression du Yémen pour le compte d'Israël, pour différentes choses. D'abord parce que le Yémen a toujours résolument et indéfectiblement soutenu la lutte du peuple palestinien, d'une part, et puis d'autre part parce que aussi c'est un peuple qui veut vivre debout et qui refuse toutes les tutelles, notamment les tutelles saoudiennes. Et troisièmement aussi parce que le Yémen se trouve sur une position géostratégique importante qui est la position à l'angle de la mer Rouge et de la mer indienne, donc aux portes de l'Afrique d'un côté et aux portes de la mer Rouge de l'autre côté. Et aussi, donc, et puis les Israéliens, en fait, tout ça pour le profit des Israéliens qui veulent dominer les voies de passage, les voies maritimes de passage à la fois du pétrole et de toutes les denrées.
Madame Mehmidani, excusez-moi de vous couper la parole. Vous l'avez en fait dit depuis 2015, cette coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite mène en fait cette guerre sans merci contre le peuple yéménite, contre les installations vitales de ce pays. Mais l'ironie de l'histoire, Madame Mehmidani, le régime saoudien qui avait promis de conquérir Sanaa dans 2 semaines, lorsqu'il y a eu cette agression contre le Yémen en 2015, a écrit, suite à cette récente frappe de la résistance yéménite contre Aramco, une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU l'appelant à mettre un terme aux frappes, si vous voulez, saoudiennes contre ces installations pétrolières, Madame Mehmidani.
Effectivement, c'est l'ironie du sort, c'est eux qui sont les agresseurs et ils crient aux agresseurs, à l'agressé. Il est clair que aussi depuis, il est important quand même de signaler que depuis 5 ans et demi, ni les structures de l'ONU ni le Conseil de sécurité n'ont évoqué dans le moindre rapport toutes ces exactions qui sont menées par la coalition dirigée par les États-Unis aussi. En fait, par l'Arabie saoudite, je dirais, pour le compte des États-Unis et Israël, ils n'ont jamais fait la moindre remarque aux Saoudiens d'un côté. De l'autre côté, je tiens quand même à rappeler que lorsque l'Arabie saoudite était listée sur la liste noire pour avoir tué un nombre important d'enfants au Yémen, elle a été enlevée de cette liste noire par le secrétaire des Nations Unies, étant donné que l'Arabie Saoudite a joué au chantage à l'argent d'un côté, et puis aussi sans doute sous la pression des Américains. Je voudrais dire quand même que malheureusement l'ONU était devenu de plus en plus le défenseur ou la plateforme de défense des positions américaines dans la région. C'était le cas pour la guerre d'agression menée contre la Syrie aussi depuis 2011, et dans laquelle d'ailleurs l'Arabie Saoudite a joué un rôle absolument important dans l'agression, puisqu'elle soutient toujours les terroristes. C'était aussi une plateforme d'agression, de financement du terrorisme et de soutien par des moyens militaires, par des munitions, par des armements, etc., de l'ensemble des organisations, d'un ensemble d'organisations terroristes en Syrie. D'ailleurs, ça a été aussi divulgué dans les médias lorsqu'il y a eu la divergence, je dirais, entre Qatar et l'Arabie Saoudite. Ça a été dit sur tous les médias et crié sur tous les médias par Hamad Ben Jassim, qui était le ministre des Affaires étrangères du Qatar, et puis qui a vraiment divulgué et parlé de ce complot contre la Syrie, et dans lequel étaient associés d'ailleurs, et ils sont toujours, et ils étaient associés Qatar et l'Arabie Saoudite, et maintenant donc il y a des différends entre eux. Qatar continue à collaborer et à coopérer avec la Turquie, tout ceci pour le plaisir des États-Unis et d'Israël, pour le plaisir et pour la protection de cette entité d'agression et d'occupation israélienne que tous s'évertuent à protéger et à faire durer, alors qu'elle est naturellement, je dirais, en voie de disparition, parce que jamais elle ne pourra être intégrée dans la région.
Madame Midani, s'agissant du régime israélien, je viens de le dire tout à l'heure, en fait, cette nouvelle attaque de la résistance yéménite contre Aramco semble inquiéter des Israéliens, au moins les milieux médiatiques des Israéliens. Et de ces milieux se sont arrêtés, Madame Midani, surtout sur les déclarations du membre du bureau politique d'Ansar Allah, Abdul Wahab al-Mahbashi, qui avait en fait précisé, après le tir, si vous voulez, de ce missile Qods 2, que voilà, ce missile est conçu. Là, je cite, si vous voulez, ce responsable du bureau politique d'Ansar Allah, avait dit que voilà, ce missile est conçu pour frapper Eilat, Madame Midani. Eilat, c'est le port israélien sur, en fait, la mer Rouge, un port qui est d'une importance, en fait, primordiale, qui avait été construit en 1995, Madame Midani. En fait, les Israéliens aussi ont pris, semble-t-il, très au sérieux ces déclarations de ce responsable du mouvement d'Ansar Allah, Madame Midani.
Tout à fait, en fait, bien sûr, parce qu'il a ajouté aussi que il était prévu pour aller à Eilat et plus loin même, dans la profondeur de la Palestine occupée. Effectivement, ils ont pris ça tout à fait au sérieux d'un côté. De l'autre côté, je voudrais quand même rappeler qu'ils prennent toujours au sérieux les déclarations du Front de la Résistance, sur les frontières nord de la Palestine occupée avec le Liban. Et ils tiennent aussi depuis un certain nombre de mois et de temps sur un pied et demi, comme on disait, sur une face à Nasrallah, et en attendant toujours la réponse de Hezbollah. Du côté de la Syrie aussi, ils ont toujours beaucoup de peur de la Syrie, d'où leur participation quand même et leur soutien aussi à Jabhat al-Nusra et à tous les terroristes qui sont en Syrie. Je voudrais quand même signaler que dans la semaine qui vient de se passer, il y a eu deux agressions contre Damas, des agressions israéliennes, à partir du Golan occupé et contre Damas, l'aéroport et la montagne Al-Mani'a dans le sud de Damas. Là aussi, en fait, tout ceci montre non seulement les inquiétudes, mais vraiment la peur de cet État fantoche israélien. Je voudrais aussi quand même rappeler aussi que Netanyahou, quand il est allé en Arabie Saoudite, là, à Jeddah, à Neyoum exactement, la ville de Neyoum, à côté de Jeddah, c'était normalement un accord secret, une rencontre secrète, mais qui a été divulguée par Israel Hayom, qui est une revue israélienne, en fait, qui appartient justement à Netanyahou. L'objectif, c'était aussi pour montrer que l'Arabie Saoudite, qui a été à la tête et qui a œuvré pour que Bahreïn et les Émirats Arabes Unis puissent faire face à ces accords avec l'État d'occupation israélien, que c'était l'Arabie Saoudite, sous la pression de l'Arabie Saoudite, et qu'il y a eu déjà plusieurs rencontres avant cette rencontre avec Netanyahou, entre Mohamed Ben Salman et Netanyahou. C'est quand même très important de voir que tous les deux, ils ont été, Netanyahou a été dénoncé par ses compères israéliens qui s'étonnaient qu'il n'ait même pas pris les précautions de les informer, mais donc que ça a été dans le secret total, et que le Mohamed Ben Salman était aussi là, il avait même approuvé quand même, apparemment, d'après ce que dit le journal, la publication et le fait de divulguer cette rencontre. Et en fait, ceci pour montrer que, de toute façon, pour aller dans le sens de la, moi je dirais pas normalisation, mais dans le sens des alliances avec Israël, mais ce sont des alliances actives, aussi bien au niveau des renseignements qu'au niveau des échanges d'informations et au niveau de la présence, en fait. Je pense que dans le monde musulman, on est en droit de s'insurger contre cette utilisation, je dirais, du ciel et des lieux saints pour accueillir un pouvoir d'agression contre tous les musulmans et contre les peuples musulmans et chrétiens, d'ailleurs, de la région, puisque Jérusalem est une capitale sainte pour les deux religions, mais aussi il y a la Mecque et le pèlerinage, et il y a Médina, qui sont vraiment des villes saintes importante pour l'ensemble des musulmans.
Et Madame Midanid, malheureusement, notre contact avec Monsieur de Tava n'a pas été établi. On va poursuivre avec vous. Et notre débat, c'est quand même un très, très bon débat, Madame Midanid, grâce à vous et grâce à vos analyses et commentaires. Madame Midanid, vous l'avez en fait dit, il y a eu cette rencontre secrète entre Benjamin Netanyahou, Ben Salman et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, si vous voulez, à un moment où il y a eu cette attaque de la résistance yéménite contre l'installation pétrolière en fait d'Aramco. Et j'étais en train de fouiller les articles de la presse avant de venir en fait présenter cette émission. Je suis tombé, Madame Midani, sur ce tweet d'Abdelbari Atvan, le rédacteur en chef de Rayal Yaoum, en s'adressant, si vous voulez, à certains régimes arabes. Il avait dit que voilà, Israël ne peut pas en fait de se protéger. Comment sera-t-il vous protéger, Madame Midani?
Exactement, puisque Israël vit une peur quotidienne, effectivement, de l'ensemble de la résistance libanaise déjà et de Hezbollah, mais aussi ces pays prétendent que leur alliance avec Israël va les protéger de la prétendue agression iranienne. Alors, comment Israël va pouvoir les protéger si elle ne se protège pas, ça d'un côté, mais d'un autre côté, c'est aussi créer un ennemi fictif, en fait, puisqu'il n'arrête pas de dire que l'Iran va les agresser ou ils ont peur de l'agression de l'Iran, alors qu'ils sont en train de tendre la main à l'ennemi réel de tous les peuples arabes et de tous les peuples musulmans, en fait, qui est l'État sioniste. En fait, cet État pendant la signature ou pendant leur visite aux Émirats arabes unis, en même temps, ils exhortent les États-Unis de ne jamais donner les vraies armes aux Émirats arabes unis, jamais de F-35, jamais de F-25, mais il faut qu'elles soient pour assurer la suprématie militaire d'Israël dans la région, et il faut qu'il y ait quand même un rapport de force qui penche plus du côté d'Israël.
Merci
Donc
beaucoup.
En fait, non seulement ils passent des accords et des alliances avec ces États. En fait, moi, je voudrais dire qu'ils ne sont pas des États. Ce sont vraiment des gens qui sont mis au pouvoir par les Américains, par les Britanniques, qui sont complètement coupés de leur peuple parce que le peuple bahreïni s'oppose réellement à ces alliances avec Israël, le peuple émirati aussi. Et des sondages montrent aussi qu'en Arabie saoudite, la plupart de la population, nombre important, à 90%, ils sont complètement opposés à ces alliances.
Merci beaucoup.
Ces normalisations, entre guillemets, des rapports avec Israël.
Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrienne, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivie. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Ici, le Moyen-Orient. Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée de cette fois-ci essentiellement à l'actualité iranienne. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a émis un message à la suite de l'assassinat du martyr Mohsen Fakhrizadeh, des scientifiques iraniens de la défense nucléaire. Voilà le texte intégral du message du guide suprême de la révolution islamique.
au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le scientifique et éminent et saillant de notre pays dans les domaines nucléaires et défensifs, M. Mohsen Fakhrizadeh, a été tué en martyr par des mercenaires criminels et brutaux. Avec ses efforts scientifiques significatifs et durables, il a consacré sa vie sur le chemin de Dieu et le statut élevé de martyr et sa récompense divine. Tous les administrateurs concernés doivent sérieusement mettre deux questions cruciales à leur ordre du jour. Tout d'abord, enquêter sur ce crime et poursuivre fermement ses auteurs et ses commanditaires, et ensuite poursuivre les efforts scientifiques et technologiques du martyr dans le secteur où il était actif. Je présente à la fois mes félicitations pour son martyr et mes condoléances pour sa disparition à sa famille respectée, à la communauté scientifique du pays, ainsi qu'à ses collègues et étudiants dans divers secteurs. Je demande à Dieu d'élever son rang. Acte terroriste de visant Fakhrizadeh, l'Iran riposte au moment opportun, a souligné le président Rouhani. En riposte à l'assassinat lâche du martyr Mohsen Fakhrizadeh, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que tous les groupes de réflexion et les ennemis de l'Iran sachent que le peuple et les responsables iraniens sont plus courageux et zélés que laisser sans réponse cet acte criminel, et les autorités compétentes réagiront à ce crime de manière opportune et appropriée, a promis le président Rouhani. Le peuple de notre pays et ceux du monde ont assisté à un acte terroriste perpétré par les ennemis de l'Iran contre un chercheur et scientifique du pays qui avait, ces derniers mois, consacré son temps à la lutte anti-Covid et à la recherche de la fabrication de kits à cette fin. Beaucoup de recherches à cet effet ont été faites au ministère de la Défense dont il était en charge, et ce ministère a pu produire et répondre à une partie des besoins du peuple dans ce domaine, a souligné encore le président Rouhani. Cet assassinat barbare montre que nos ennemis vivent de semaines d'anxiété, des moments où ils sentent que leur pression s'atténue et que la situation mondiale évolue, et il est donc important pour eux de profiter au maximum de leurs derniers jours pour pouvoir en tirer le meilleur parti, a souligné encore le président Rouhani. Pour le président iranien, cette barbarie vise à provoquer une ambiance d'incertitude dans la région et à détourner l'attention du monde de la terreur et de l'intimidation qu'ils ont suscité ces derniers jours dans les territoires occupés vers d'autres problèmes et questions. Le président Rouhani a conclu « La nation iranienne est plus intelligente et plus sage que de tomber dans le piège de la conspiration sioniste. » Les sionistes envisagent de provoquer une crise. Sachez que nous avons déjà lu leur jeu et qu'ils ne réussiront pas à atteindre leur malveillant objectif. Mohsen Fakhrizadeh, très haut scientifique atomiste iranien travaillant pour le secteur de la recherche et de l'innovation du ministère de la Défense, a été lâchement assassiné vendredi alors qu'il se trouvait dans son véhicule en banlieue de la capitale iranienne Téhéran. Les autorités iraniennes ont pointé du doigt le régime israélien déjà impliqué dans de nombreux actes de terroristes visant l'Iran. « le monde doit abandonner le double standard et condamner la terreur d'État, insiste le ministre iranien des Affaires étrangères dans un tweet en français. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a exhorté la communauté internationale à renoncer à ce double standard dans la lutte contre le terrorisme et à condamner toutes les formes d'actes de terrorisme parrainés par l'État. Mohammad Javad Zarif a fait ses remarques dans un tweet en français dimanche soir qui faisait écho à une série de tweets allemands qu'il avait posté plus tôt le même jour dans lesquels il soulignait que le récent assassinat du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh portait clairement la marque des atrocités commises par le régime israélien. Les terroristes ont assassiné un grand scientifique iranien. Cette lâcheté avec de sérieux signes du rôle d'Israël illustre le bellicisme de ces auteurs désespérés. L'Iran appelle la communauté internationale, dont l'Union européenne, à abandonner le double standard et condamner ce terrorisme d'État, a souligné encore Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter. Dans son tweet en allemand, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le récent assassinat du scientifique nucléaire iranien porte la marque claire des atrocités commises par le régime israélien qui a déjà assassiné un certain nombre d'élites scientifiques iraniennes. Le chef du conseil stratégique iranien des relations extérieures, Kamal Kharazi, a déclaré quant à lui dimanche que la République islamique d'Iran donnerait une réponse calculée à l'assassinat de Fakhrizadeh. Il ne fait aucun doute que la République islamique d'Iran donnera une réponse calculée et catégorique aux criminels qui ont enlevé de Fakhrizadeh à la nation iranienne, a déclaré Kharazi dans un message. Les députés iraniens ont approuvé le projet de loi de double urgence intitulé la mesure stratégique pour la levée des sanctions. Ce plan de double urgence a été approuvé avec 232 voix favorables sur 246. Le président de la commission parlementaire de la sécurité nationale et de la politique étrangère, Mojtaba Zonnour, qui avait proposé ce plan de double urgence, a déclaré que les sanctions contre l'Iran devraient être levées dans le cadre du plan global d'action conjoint l'accord sur le nucléaire iranien, mais qu'elles avaient été réimposées par les États-Unis, bien que l'Iran se soit pleinement engagé à respecter l'accord. Plusieurs rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique ayant confirmé que Téhéran s'y était conformé. Et le projet de loi de double urgence contient une combinaison de suggestions concernant le retrait de l'Iran du traité de non-prolifération nucléaire TNP et une révision des mesures concernant le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien. Il comprend aussi une disposition qui sanctionne pénalement tout refus d'appliquer la loi ou d'empêcher sa mise en œuvre. Les partisans de ce plan de double urgence disent avoir proposé le projet de loi après une réduction progressive des engagements de l'Iran vis-à-vis de l'accord nucléaire et l'avertissement du président iranien à la Troïka européenne concernant son soutien à l'intensification constante des sanctions américaines contre Téhéran. Attaque terroriste visant le savant nucléaire iranien. Réactions internationales. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a condamné l'assassinat du scientifique iranien. La Chine s'est dite choquée d'apprendre l'assassinat d'un scientifique iranien. De telles violences et actes criminels sapent la stabilité et la sécurité dans la région et la Chine les condamne, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le ministre irakien des Affaires étrangères Fouad Hossein a condamné l'assassinat et présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple iranien. Fouad Hossein a également critiqué ce qu'il a appelé des actions qui ne contribuent pas à soutenir la stabilité. Le chef de la commission des affaires étrangères du Parlement russe a dénoncé l'attaque terroriste comme un crime. Leonid Slotsky a déclaré que cette décision visait à provoquer l'Iran. L'Union européenne a qualifié cet assassinat d'acte criminel. La Suisse également, a également condamné le meurtre avant d'appeler à la retenue. Le ministre suisse des affaires étrangères a souligné la nécessité de prévenir les tensions dans la conjoncture actuelle et a indiqué soutenir toute action pour rétablir le calme est nécessaire et nous sommes prêts à aider à soutenir toute action à cette fin. La Turquie a qualifié cet assassinat d'acte de terrorisme, a déclaré que ses commanditaires et ses auteurs devraient être tenus responsables. Les Émirats arabes unis et la Jordanie et également Bahreïn ont condamné l'assassinat, appelant à la retenue. Publiant un communiqué, le ministère libanais des Affaires étrangères a pour sa part condamné l'assassinat du scientifique atomiste iranien, affirmant que de tels crimes exacerbaient le conflit et étaient condamnés et rejetés en vertu du droit international. Le ministère afghan des Affaires étrangères a également condamné l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh. Et le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Azerbaïdjan condamne l'assassinat du scientifique nucléaire iranien et présente ses condoléances à sa famille, au peuple et au gouvernement iranien, indique dans son communiqué le ministère afghan des Affaires étrangères. De même, le ministre koweïtien des Affaires étrangères, qui a eu un contact téléphonique avec son homologue iranien, a condamné l'assassinat du martyr Fakhrizadeh et a présenté ses condoléances au peuple et au gouvernement iranien. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. On va se retrouver la semaine prochaine, plus précisément mardi. Thank you.